je suis l'auteur de ce travail de devoir et je vous remercie d'abord d'être venu. En fait, c'est la première production publique de ce film. Il a été réalisé en 2010, mais c'est un travail qui est encore en cours. La version que vous venez de voir est une version courte qui débouche d'un film au début. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je suis très touché de voir autant de monde s'intéresser à Alexander Botelli. J'ai peu de choses à dire, sinon j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce travail. Je voulais simplement dire que le fait d'essayer de faire un film sur Alexander Botelli, c'est effectivement essayer de faire un travail sur quelqu'un qui est évanescent, hein, qui n'est jamais présent. Donc c'est toujours un film en creux, dans l'absence de ce personnage. Et c'est l'occasion de faire des rencontres. Donc les années de la réalisation de ce film sont des années au cours desquelles il y a eu toutes sortes de rencontres vraiment très belles. Certaines sont ici. Mais ce qui est intéressant dans le personnage de Grothendieck, c'est que deux mondes apparemment éloignés, comme celui des mathématiciens et celui de l'écologie, se retrouvent rassemblés dans ce personnage qui est un personnage complètement hors norme. C'est vrai ce que dit à un certain moment Éric Voliou, un des journalistes et poète, qui est une des personnes qui a rencontré lui aussi Alexander Grothendieck en d'autres circonstances. C'est une quête assez troublante que d'essayer de comprendre qui est Alexander Grothendieck. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour le moment, et j'attends surtout vos remarques, critiques, s'il vous plaît. Et peut-être témoignages de s'il y a des gens dans la salle qui ont connu ou rencontré Alexander Grothendieck.
Bonjour. À propos de Alexander Grothendieck, puisque c'est le sujet, et dans le cadre en fait de l'évolution de ce qui se passe en ce moment, notamment à l'université de Montpellier, je voudrais faire un témoignage par rapport au stage. C'est un stage en fait qui n'est pas simplement réservé à ceux qui préparent l'agrégation interne de mathématiques, et par hasard, parce que j'y étais pour la première fois cet été en juillet dernier à l'IREM de Montpellier, un stage de une semaine, et là j'ai eu un professeur Gilles Albou, de professeur à l'université de Montpellier, que d'ailleurs je vous invite à regarder. D'ailleurs, il y est parlé de Grothendieck d'ailleurs sur la page d'accueil du site de l'IREM de Montpellier. Vous avez une vidéoconférence de Cédric Villani, autre médaille Fields, la meilleure et la pire erreur de Poincaré, pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Bon, ils y parlent à un moment de Grothendieck. Mais justement, ce dont on peut tous se réjouir, c'est que moi, simplement d'après ce que j'ai vécu pendant une semaine à l'IREM de Montpellier, j'avais l'impression, avec Gilles Albou, et aussi il y avait un autre intervenant, Michel Alessandri, un prof de prépa sur Montpellier, j'avais l'impression d'avoir rencontré la communauté des pythagoriciens. Et d'ailleurs, si vous regardez l'article Pythagore sur Wikipédia en français, et non pas dans les autres langues, c'est intéressant de comparer, vous verrez que l'article en français, il n'a rien à voir avec, il est beaucoup plus complet que les autres articles. Et donc, les pythagoriciens, c'était des magiciens, c'était des ésotéristes. Et c'est là où j'ai l'impression que, presque on pourrait dire, si on voulait le dire de manière amusante, Grothendieck l'a rêvé, Gilles Albou l'a fait. Il n'est peut-être pas seul, hein, il a tout un groupe. Mais bon, pour ceux qui seraient intéressés, c'est exceptionnel ce qui s'y passe, quoi. C'est magique. Pour reprendre la formule de Michel Alessandri, Le miracle de l'algèbre. Là, ça devient vraiment miraculeux. Maintenant, pour faire le lien avec l'écologie, et c'est là où on peut encore se réjouir, parce que si je vous invite à regarder toujours sur Internet une interview de Tristan Lecomte, Tristan Lecomte qui est le fondateur de Alter Eco et de Pure Projet. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que en 2010, il a été nommé par le magazine américain Time comme faisant partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Lui, il est 14e dans la catégorie héros. Et bon, lui, il vient de sortir un livre « Comment je suis devenu plus humain » aux éditions Flammarion. Si vous écoutez son interview sur France Inter en juillet, Tristan Lecomte, France Inter, juillet 2012, juillet 2012, on est encore une fois dans le prolongement pratique, cette fois, de ce que Grothendieck dit qu'à son époque, l'époque n'était pas prête, mais la relève est assurée et on peut se réjouir, si on regarde de ce côté-là, on peut se réjouir de ce qui se passe.
Moi, je voudrais dire juste qu'on ne fait pas des films tout seul, et comme vous avez remarqué, ce film s'est construit avec l'aide d'un certain nombre de gens. Alors, il y a des gens qu'on voit à l'image, d'autres qui ne sont pas à l'image. Ça, c'est la difficulté du montage. On est obligé d'interroger des gens, de leur demander du temps. Et souvent, ils ne se retrouvent pas dans le montage final parce que le montage a des lois particulières. Mais il y a là, dans la salle, deux personnes qui sont dans le film et dans la salle en même temps. Et donc, Jean-Paul Marieux et Céline, j'aimerais que vous rejoigniez. Donc Céline est historienne et elle faisait à l'époque où je travaillais sur le film un mémoire sur le mouvement et sur l'écriture. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est le sujet de ton travail?
Oui,
alors
Jean-Paul Marieux et Jérôme Anisot ont participé à ce moment, donc ils pourront aussi en dire plus. Mais on voit bien quand même apparaître sur le bruit dans ton film aussi, Hervé. Et donc, c'est effectivement un mouvement créé par Alexandre Grothendieck sur les questions au départ de collaboration des scientifiques avec l'armée, donc dans la mouvance de l'opposition à la guerre du Vietnam et sur le modèle de groupes de scientifiques responsables qui font florès à l'époque, surtout aux États-Unis mais dans le monde entier. Donc, c'est une dénonciation de la collaboration directe des scientifiques avec l'armée, mais aussi plus largement de tout le complexe scientifico-militaro-industriel et de comment les politiques, notamment de contrats que l'armée passe avec les laboratoires scientifiques, peut influer sur l'orientation des recherches. Donc au départ, c'est vraiment ça qui conduit Grothendieck à s'engager. Donc il démissionne de l'Institut des hautes études scientifiques où il était la renommée. Et il est rejoint dans son engagement au départ par plusieurs mathématiciens assez célèbres aussi, donc notamment Pierre Samuel, Claude Chevalet et Roger Godemont.
Et des physiciens.
Donc Survie va développer une réflexion sur la faculté destructrice des technosciences. Et donc il faut le resituer dans tout un mouvement de politisation des questions scientifiques et techniques par les scientifiques eux-mêmes dans l'après mai 68 notamment. Et donc il y a tout un ensemble de réflexions, de mobilisations, de séminaires critiques qui s'interrogent sur quelles sont les finalités de la recherche scientifique. Je vais peut-être pas développer énormément sur Survivre, mais donc ça joue quand même un rôle très important dans les débuts du mouvement antinucléaire, notamment Grothendieck personnellement aux côtés de Pierre Fournier. Il y a un ensemble de groupes qui va se créer en province aussi, qui s'engagent dans de nombreux combats écologistes. on pourra en discuter plus. Et j'ai aussi ramené quelques textes de survie de l'époque qu'on va mettre à la disposition tout à l'heure au café.
Oui, d'abord je voudrais vous féliciter pour ce film que évidemment je n'avais pas vu. Et parce que vraiment il est très respectueux. Il est respectueux de la des caractères multifacettes du personnage que vous essayez de cerner, l'abondance des citations que vous avez fait de ces textes les plus beaux, je trouve ça vraiment très bien. Et vous avez fait une place qui me semble vraiment importante et vraiment essentielle à son apport en tant que mathématicien, en tant que scientifique. Et je dis bien équilibré, vraiment, personnellement, je suis très, très reconnaissant pour ce que vous avez fait, l'objet que vous nous présentez là. Alors, ce qui me frappe quand même à le voir, c'est l'importance de la question morale. Il y a une chose qui m'a frappé dans l'interview d'un des matheux qui parle sur sa trajectoire. Il parle d'une sombre histoire à propos de sa démission de l'IHES.
C'est la forme.
Appelée une sombre histoire, le fait que quelqu'un se rencontre tout d'un coup, que l'essentiel des fonds viennent de l'armée américaine, au moment où se déroule la guerre du Vietnam, ses aspects les plus terrifiants, c'est pas une sombre histoire. C'est une histoire qui, à quelque part, c'est un éclat de lumière. Et la décision qu'a eu Grothendieck, et qu'il a répété maintes fois dans sa vie, de faire rupture, de dire là, c'est une ligne rouge que je ne franchirai pas, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Je pense aussi à ce qu'il dit à propos de ce que va être la pratique scientifique à la fin du siècle, maintenant, du siècle dernier. Et je voudrais raconter une petite anecdote. J'ai un voisin qui habite à la campagne à côté d'un château, qui loue ses terres pour faire du ball painting et des machines comme ça. Il m'a dit que j'ai vu arriver l'année dernière des camions entiers, des camions militaires et déchargés, des mitraillettes, etc. Et j'ai demandé ce que c'était. C'était les élèves de la Toulouse School of Economics qui allaient, pour souder la promotion, faire un simulacre de guerre du Vietnam. Il y aurait les Viettes et il y aurait les Américains. Et la Toulouse School of Economics, c'est en France la pointe, parce que la plus formalisée, parce que la plus mathématisée de tous les enseignements d'économie. Et ça fait froid dans le dos quand on regarde l'itinéraire de Grothendieck, cette espèce de pureté morale qui était la sienne, de rigueur, et dont on se demande effectivement, et les pratiques dans lesquelles nous sommes engagés à l'heure actuelle dans la vie scientifique sont effectivement la négation des précautions morales dont on essayait, dans lesquelles on essayait d'enfermer la pratique scientifique. Donc, je suis très frappé par la dimension morale qui se dégage de l'ensemble des témoignages. Et, alors, effectivement, il se passe la rencontre chez lui, et dans ce temps historique, une préoccupation morale, par exemple, à propos de la guerre du Vietnam, et une grande inquiétude écologique sur la question de la survie de la planète, la survie de nos sociétés, la survie de nos civilisations. Et alors, c'est de cette rencontre d'une préoccupation morale et d'une inquiétude qui est une inquiétude plus du côté de la nécessité qu'est né son mouvement. La dimension écologique a pris une autre tournure parce que 68 est arrivé là-dessus, et que le côté libertaire, l'appel au désir, etc., a fait qu'on a ajouté au terme de survivre, survivre et vivre, parce que les expressionnistes avaient dit, avaient fait de la survie l'absolu synonyme de la sous-vie, de la vie de merde, quoi. Là, s'ajoutait quelque chose de supplémentaire qui était plutôt du côté de l'esthétique, du ludique, etc., et dans lequel je pense que Grothendieck, avec son sérieux fondamental, ne se retrouvait pas trop, et donc il nous a lâchés lorsque nous avons continué, après son départ de Paris, à essayer d'animer le mouvement Survivre et Vivre. Mais bon, j'ai assez parlé. Merci. Je serais vraiment curieux de savoir, peut-être des gens qui n'ont pas connu ces livres, qui n'ont pas connu ces personnages, ont pu penser du témoignage et des témoignages que vous avez ramassés. Jérôme, tout de même. Aussi, je vous remercie.
Bon, j'ai connu du moins j'ai vu Grothendieck, c'était en 1966, j'étais chercheur au CNRS, et mon patron était Daniel Kassler, qui avait été invité cette année-là à l'IHES pour un an. Comme je faisais, c'était lui mon directeur de thèse, j'allais régulièrement le voir à l'IHES et discuter avec lui de mon travail. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que on voyait Grothendieck que à la cantine. Nous, on était les physiciens théoriciens. On était à part, hein. C'était une sous-race. Et il y avait les mathématiciens de l'autre côté qui étaient les plus appréciés. Et donc, on voyait Grothendieck uniquement à la cantine. Il était entouré d'un nuage de mathématiciens. Ils avaient une grande table pour eux. Il était assis en tête de la table et il parlait tout le temps. Et tous les autres écoutaient religieusement. Ça, c'est sûr que ça nous impressionnait beaucoup, beaucoup. Puis, lorsque j'ai appris qu'il avait démissionné de l'IHS parce que l'IHS était financé en grande partie par l'OTAN, ça m'avait encore plus impressionné et ça a donné un aspect humaniste, un aspect moral que je ne connaissais pas de lui. Je l'ai rencontré effectivement personnellement, c'était à l'époque où il avait été nommé professeur à Montpellier, et nous étions allés, les Marseillais, les enseignants marseillais, nous étions allés jusqu'à Montpellier pour voir leurs expériences d'enseignement. Et puis, et là, j'ai entendu parler de lui et des cours qu'il faisait sur le préau lorsqu'il faisait beau. Et en partant, je suis passé le voir carrément chez lui. Il m'a accueilli très gentiment et m'a offert de boire du thé avec lui. Il était assis par terre, c'était extrêmement simple mais extrêmement agréable, et il émanait de lui quelque chose de vraiment qui me touchait beaucoup. Je te remercie pour ce film qui est absolument extraordinaire, qui permet de ressentir à nouveau ce que j'avais senti à l'époque quand je l'avais vu et quand j'avais discuté avec lui. C'est très impressionnant et c'est la deuxième fois que je le vois. Chaque fois, je suis très ému. Je te remercie.
Oui, donc je suis mathématicien et un petit peu militant écologiste. Et quand j'étais étudiant à Paris, donc dans les années 80, je veux dire d'ailleurs, j'ai eu comme professeur à un moment Roger Godman qui apparaît dans le film. Mais indépendamment, j'ai entendu parler de Grothendieck, j'ai appris l'existence de ce mathématicien qui avait déjà une aura, déjà un personnage mythique et mystérieux, puisque déjà il s'était retiré au moins, je pense qu'il était à ce moment-là qu'il était à Montpellier, enfin qu'il était encore propre à Montpellier.
C'était en quelle année?
Dans les années 80.
Oui.
Et puis, donc, je n'ai jamais rencontré Grothendieck, mais j'ai toujours été fasciné par ce personnage et par ses mathématiques aussi, qui m'intéressaient. La question que je voudrais poser, ça, c'est au sujet de la forme du film. Évidemment, ce qui marque, je pense, les spectateurs, c'est que le personnage n'apparaît pas dans le film. Enfin, il apparaît un peu, enfin, il apparaît évidemment pas indirectement par les témoignages, les photos, et il semble par les dernières paroles du film où on l'entend vaguement parler, mais c'est sous-titré, voilà. Donc je voulais savoir si ce choix donc, d'avoir un film sur un personnage vivant, mais totalement presque absent du film, était un choix esthétique, ou simplement dû au fait que Grothendieck a refusé de participer à ce film.
Alors, quand on m'a raconté pour la première fois qui était Grothendieck, parce que moi je ne suis pas mathématicien, je suis quelqu'un qui fait des films, j'ai été frappé par la dimension mythique et sa disparition en particulier. On raconte l'immensité du personnage, mathématicien, écologiste, puis on dit, il a disparu. Et autour de sa disparition, il y a un nombre de récits, certains presque légendaires, absolument considérables. Et on sait que Grothendieck a refusé d'être photographié, de rencontrer un certain nombre de personnes, et pas des moindres. De très grands mathématiciens ont fait le voyage et se sont fait jeter. Enfin, voilà. On raconte qu'il a été pris en photo dans les années 91 par un journaliste d'un quotidien local de l'Hérault et qu'il aurait disparu. Bon, voilà, ce genre de légende voilà, qui était racontée. Je pense que ce sont des légendes. Mais c'est la construction du personnage tel qu'elle est véhiculée dans ce qu'on entend parler de Grothendieck. Donc j'ai un grand respect pour quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas être filmé. Mais en tant que réalisateur, je trouve que c'est très intéressant de faire un film sur quelqu'un qui n'apparaît pas. Alors, Grothendieck ne s'est pas opposé au film. Il a simplement dit qu'il ne voulait pas y participer. Voilà. Mais il ne s'est pas du tout opposé. Au contraire, il était très curieux de savoir qui j'avais vu. Ça l'intriguait un peu. Voilà. Non, il n'a pas vu le film. Non. Il n'a pas cherché à le voir et... Voilà, il est dans une sorte de... Il fait dans un refus quand même apparent d'un certain nombre de choses. Je dis apparent parce qu'il y a plusieurs niveaux, certainement. Voilà. Mais il a rompu tout contact avec sa famille, il a rompu tout contact avec beaucoup d'amis, proches, de collaborateurs, d'institutions. Enfin, bon. Je ne dis pas qu'il ait rompu avec tout le monde. Il y a certaines personnes avec lesquelles il maintient des liens, qui sont parfois des amis ou autres. En tout cas, c'est quelqu'un qui a refusé, qui refuse maintenant d'être un personnage public d'aucune manière, puisque, on le dit au début du film, il a même interdit que l'on publie, republie son travail. Donc il veut disparaître, il veut s'enfoncer dans le grand trou. Voilà. Donc, c'est pas un choix esthétique de ma part, je trouve que c'est un défi qu'il était intéressant de relever. Voilà.
Oui, moi j'étais écologiste du temps de René Dumont, je veux dire. qui est cité dans le film, ça m'a fait plaisir, parce que là, justement, on était traité de fous furieux, bon, je veux dire, on était vraiment traité de fous. Maintenant, est-ce que je voudrais demander, c'est pas une mode maintenant d'être écologiste, comme on porte un costume Pierre Cardin, ou alors des prothèses de ma mère au pipe, je veux dire, c'est pas, mais je veux dire, ça c'est bien, maintenant, c'est très bien que les gens réagissent tout le temps quand il est trop tard, et les autres qui se sont fait massacrer par la police, tout ça, bon, à ceux-là, ils s'en foutent. Non, ça fait bien, alors on se dit on est écologiste, hein, comme ça. Alors je voudrais émettre aussi une petite critique au sujet du nucléaire, parce que le nucléaire, il faut pas oublier que c'est on est en paix aujourd'hui, c'est grâce au nucléaire, hein, parce que les Russes, ils voulaient foncer sur le Japon, rappelez-vous, hein, si vous connaissez un peu votre histoire, ne l'oubliez pas, hein, le nucléaire nous a sauvés, hein, on est sauvés par le nucléaire, n'oubliez pas le nucléaire, surtout militaire. Quand la bombe a explosé, les Russes, ils rasaient les murs, je vous le signale. Hein. Ça a été terminé, c'est la bombe atomique a congelé les conflits, et c'est devenu carrément, c'est devenu des conflits, on s'est refroidi, ça a été la guerre froide, c'est tout, parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. C'est le premier qui a en place sur cette arme, ben, il est mort, voilà, on est mort. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, parce qu'on est encore en train de s'étriper. Relisez votre histoire, les Russes, après, ils voulaient tout le temps l'Allemagne de l'Ouest, là, excusez-moi, mais vous trompez, j'étais anti-militariste, moi aussi, je suis anti-militariste. Et ça a été dur à mon époque, moi je peux vous dire. Mais maintenant je suis comme Grotenberg, il a absolument raison, il s'en fout, il ne veut plus parler à des gueux, mais moi je le comprends très bien. Je le comprends parce que les gens ils réagissent toujours. Enfin, c'était comme là, dans l'avortement, c'était pareil. Et les mecs ils ont morflé, et ils sont allés au tribunal, maintenant ça, putain, ça y est, alors les mecs, ça y est, et on commence. Et alors je suis allé à une conférence, les jeunes, vous allez manger des insectes, vous allez bouffer des insectes, et les jeunes, bientôt vous ne pourrez plus voyager, comme ça. Et pour tirer un coup, alors là, je ne sais pas comment vous allez faire. Alors là, comme nous, on a maintenant avec les religions qui se pointent, tout ça, alors c'est l'écologie, ce serait plus une mode maintenant. C'est, voilà, je me dis, je suis écologiste, voilà, ça fait bien.
Il y a d'autres... Je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Jean-Paul Malrieux quand il parlait de la dimension morale du personnage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très frappant lorsqu'on s'attaque à l'idée de faire un film sur Grotendieck. C'est difficile de parler de mathématiques. D'abord, je ne suis pas mathématicien. Et puis, en général, dans le public, c'est très difficile de trouver des gens qui comprendraient vraiment les mathématiques de Grotendieck. Bon, tout le monde dit, enfin tout le monde, tous les mathématiciens que j'ai rencontrés, que ce sont parmi les mathématiques les plus abstraites qui soient. Donc, la dimension morale m'a semblé très 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 importante, dans le sens où je trouve que le personnage de Grotendieck est d'une très grande actualité. En particulier, cet épisode sur le moine bouddhiste, par exemple, est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Et on reprend les termes de son message que j'ai repris. C'était des mots qu'on aurait pu prononcer maintenant, enfin il y a toujours. Rien n'a changé, quoi. Enfin, et je trouve que son indignation était très très belle. Voilà, c'est mon jugement personnel.
J'ai une question. Bon, déjà, je vous remercie d'avoir fait ce film qui permet de sortir un peu Alexandre Grotendieck du mythe pour les mathématiciens. Parce qu'effectivement, c'est aussi un personnage social, politique, très important, alors que la publicité qui est donnée à sa personne, y compris sur votre petit flyer, est souvent restreinte aux mathématiciens. On dit c'est un grand savant, le plus grand mathématicien, etc. Mais c'est aussi un homme politique, je pense. Maintenant, moi, ma question interroge un peu les personnes que vous avez rencontrées. Bah, je pense pas que Grotendieck ait envie de se prononcer sur ce sujet, mais moi je trouve sa posture très courageuse, à savoir j'arrête tout, démerdez-vous sans moi. Et en même temps, je me demande si elle n'est pas risquée, au sens où il abandonne le système à des gens qui sont peut-être moins éduqués que lui, qui ont un niveau de conscience nettement plus faible, et le risque est très important. Et je me demandais, vis-à-vis des collègues, des amis, des autres membres de Survivre et Vivre, quelle est leur position vis-à-vis de ce jusqu'au boutisme de Grotendieck qui finalement nous prive de lui. Est-ce que d'autres gens n'ont pas accepté le compromis, je pense à des scientifiques ou autres, de rester à l'université pour enseigner, pour ne pas laisser le système au salaud, entre guillemets. Est-ce que vous avez ressenti ça chez ses amis ou collègues ou autres?
Moi, je ne peux pas répondre pour les autres. Jean-Paul se lève, donc je sens qu'il va...
Et sa position à lui n'a pas été très radicale. D'abandonner le champ de l'activité scientifique n'a pas été suivi par l'ensemble des gens. Pas radicalement suivi. Bon, parmi vos intervenants, il y a Daniel Sigoni, qui a quand même laissé tomber la pratique de production mathématique pour se consacrer à la psychanalyse et à des considérations philosophiques. Dans un personnage qui vient de mourir il y a 2 ans, qui a joué un rôle très très important et que vous n'avez pas pu interroger, c'est Denis Guedj. Et Denis Guedj était matheux. Lui, il était plus du côté de... Alors, il aimait les maths. Il a écrit des romans autour des mathématiques qui font de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation, le théorème du perroquet, par exemple. Il s'est consacré à soit de la militance, soit à un effort de vulgarisation. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas abandonné la recherche. Je n'ai pas abandonné la recherche parce que je l'aimais trop, même si je faisais des choses beaucoup moins fondamentales, beaucoup plus microscopiques que les préoccupations qu'avait Grothendieck, mais parce que je pense que c'est l'activité de l'effort de connaissance et l'effort de dévoilement est quelque chose qui est vraiment très important, qui entre dans la dignité de l'humanité et qui mérite d'être poursuivi et qui mérite d'être poursuivi si possible de façon aussi respectueuse moralement que possible. Donc je pense qu'effectivement je crois que une partie de l'arrêt de l'écho qu'on a pu avoir dans le monde scientifique a tenu à la radicalité des postures, y compris de certains articles qui ont été écrits dans Survivre et Vivre et qui appelaient ou posaient la question de est-ce qu'il faut carrément abandonner l'effort de connaissance. Et ça, c'était difficilement audible par le milieu scientifique, et personnellement, je n'adhérais pas à cette position-là. Ceci dit, c'est vrai que entendre ce que, comme je le disais tout à l'heure, entendre les pronostics de Grothendieck sur ce que allait devenir la pratique scientifique, c'est quelque chose qui sonne comme un avertissement extrêmement grave, et l'évolution des modes de financement, des modes la rentrée dans un univers de compétition acharnée, passant pas du tout par les reconnaissances honorifiques de médailles, des machins comme ça, mais par les conquêtes de postes pour nos élèves, de financement, des appels à une recherche finalisée qui doit annoncer 36 mois à l'avance ce qu'on va trouver dans 36 mois et ce qu'on va livrer, les livrables, toute cette espèce de transfert qui est de transfert de pratique depuis le monde industriel vers le monde de la recherche, c'est une véritable infamie et une insulte à ce qu'est la fonction de production de vérité que devrait avoir l'activité de recherche académique. Alors, je dois dire qu'en regardant le passé, le niveau d'exigence qu'on pouvait avoir et les compromis que mes collègues plus jeunes se sont... Moi, je suis quand même un amateur maintenant, mais que mes collègues plus jeunes sont amenés pour survivre en tant que producteur d'un peu de savoir, à accepter, je suis vraiment... C'est dur de faire le bilan.
Oui, merci. Effectivement, je pense aussi que le système universitaire ou de la recherche en France a séparé la connaissance du progrès pour dévoyer la connaissance.
Moi, je voulais tout simplement rajouter que le système que Grothendieck voulait développer, lui, en tant que position institutionnel, c'était d'avoir ce système de double séminaire dont parle un petit peu Coché, hein, dans le film. C'est quelque chose qu'il avait développé systématiquement à partir des années, fin des années 69, 70, c'est-à-dire qu'il c'était un personnage mondialement connu en tant que mathématicien. Il était donc invité dans toutes les universités qui avaient du poids sur la planète. Et sa condition pour accepter de donner une conférence, c'était qu'il y ait deux conférences, ou deux parties dans la conférence, une partie sur un sujet mathématique, et l'autre sur la question de l'écologie, de la recherche, etc. Et c'était vraiment la condition par laquelle qu'il a demandé, lorsqu'il est entré au Collège de France, comme professeur invité. J'ai fait la recherche au Collège de France, et c'est assez intéressant de voir que le passage de Grothendieck, par exemple, dans une institution comme le Collège de France, a laissé une trace absolument étonnante. C'est-à-dire que lorsque je suis allé pour demander si je pouvais avoir des archives relatives au passage de Grothendieck, on m'a dit, il n'y a rien. Grothendieck, il a été au Collège de France. Donc vous voyez, l'entreprise d'effaçage, je ne sais pas comment dire, a été violente. On retrouve, j'ai fait grâce aux archivistes du Collège de France, j'ai quand même réussi à trouver 2-3 documents. Bien sûr, les documents officiels attestaient de sa position, hein, il avait été effectivement professeur invité, etc. Et il avait mis dans son programme le fait que chaque séminaire devait être doublé d'une partie scientifique pure, donc mathématique, et d'une partie sur la recherche. Et l'intitulé de son cours officiel était « Faut-il abandonner la recherche scientifique ?» Donc c'était quelque chose qui était très très violent. Et cette violence a, je crois, été à la mesure de la réaction qui a suivi. C'est ce qu'évoque un peu François Nicolas, le compositeur qui est là. On peut se demander pourquoi il y a un compositeur. C'était aussi un mathématicien auparavant. Voilà. Et dans le film, il y a un mathématicien, Thurston, qui était Medaille Fields, qui est décédé l'année dernière, je crois. Et un autre mathématicien qui n'est pas... Un autre Medaille Fields qui n'est pas dans le montage final, Stephen Smale, qui ont connu Grothendieck aux États-Unis lors de ses conférences. Ils m'ont raconté quand même qu'il y avait une terreur quand même de certains milieux académiques des conséquences que pouvaient avoir les interventions de Grothendieck. On l'a soupçonné d'être dont l'initiateur, celui qui a implanté dans le cerveau de certains exaltés l'idée d'aller poser des bombes. Enfin, vraiment, ça a été l'incarnation du diable à un certain moment dans certains milieux. Voilà.
Juste un mot. Ce que vous dites sur le Collège de France, sur la disparition du peu de traces de Grothendieck, on le retrouve notamment dans le cadre de l'écologie politique. J'ai écrit un livre sur l'histoire de l'écologie politique en 91. Je n'ai pas dit un mot sur Grothendieck. Parce que si. Pierre Samuel, je le cours toujours, parce qu'avec Pierre, Laurent Samuel, c'est le fils.
Donc, oui, c'est Pierre Samuel.
C'est Pierre Samuel. Si Pierre Samuel joue un rôle, dans l'histoire de l'autopreneur du monde, Grothendieck est totalement oublié. Ignoré. On retrouve ça, me semble-t-il, avec les Charbonneaux et Lune, qui sont peu existants dans le corpus historique de ce qui représente un peu plus, hein, parce qu'ils n'ont pas abandonné. Ils étaient tellement critiques par rapport à la façon dont l'écologie politique se constituait dans les années 70, hein, on est bien plus loin maintenant. Tellement critiques, eux aussi, qu'ils s'étaient mis en dehors. Charbonneau, Méretis et Élu, qui étaient aussi sur la recherche, très connus aux États-Unis, très peu reconnus un peu plus aujourd'hui, mais par les États-Unis, voilà. Donc c'est moi je vous remercie pour ça, parce que c'est, même moi j'apprends des trucs encore, c'est pas mal. J'étais un ignorant complet par rapport à ça. Survivre vite n'avait pas, évidemment, parce que c'était les précurseurs, un petit peu en même temps que se lançait avec Fournier, la gueule ouverte. J'en profite pour dire, parce que c'est passé totalement inaperçu, c'est pas très heureux ce que je vais vous raconter, la disparition d'Isabelle Cabu fin décembre. Isabelle Cabu était là, après Fournier, la rédactrice en chef de la gueule ouverte. Elle est décédée fin décembre. J'en ai discuté avec ses amis extrêmement proches. Personne ne voulait trop en parler, mais je pense qu'on a perdu une des grandes dames qui a succédé à tout ce qui a été fait, tout le travail qui avait été fait avec le Survivre et Vivre et d'autres, d'autres éditions écologiques des années 70, qui étaient vraiment relativement fort. Je pense aussi à ceux qui étaient autour d'Écologie Info. Jean-Luc Bergadeur est toujours vivant, mais voilà, tout ça pour dire que le fait de revenir un temps en arrière, je suis comme vous, je ne suis pas du tout mathématicien, mais finalement il y a des choses qui m'ont échappé complètement et c'est assez normal, mais qu'on a besoin de tout ça pour replacer un peu les choses dans leur cadre et les projections de ce qu'on voit aujourd'hui dans leur cadre.
Merci.
Bonsoir, merci déjà pour ce film. Je voulais intervenir sur deux points. Le premier, c'est que je suis physicien et que d'entendre parler de morale dans les sciences, ça fait un peu plaisir. Bon, pas grand-chose à en dire de plus. La deuxième chose, c'est sur la question de questionner Grothendieck sur le fait qu'il soit sorti du système. Et à l'occasion d'une autre rencontre avec une autre association, j'ai eu l'occasion de voir une conférence gesticulée où la personne rappelait qu'il y avait trois façons de résister, qui était toute utile et toute nécessaire si on voulait un peu changer les choses, avec, sans et contre. Et donc merci pour avoir témoigné sur la posture du sang, de sortir et de dire qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'on doit refuser. Voilà, c'est la deuxième chose qui m'a fait. Et la troisième, c'est juste un peu de pub, parce que j'en profite vu qu'on parle des bulles. J'appartiens à une association qui s'appelle Technologos, qui se base sur les réflexions des bulles, Charbonneau, Illich, et d'autres pour porter une réflexion sur la place de la technique dans nos sociétés. Et donc, comme il y a un petit groupe à Aix-Marseille, si vous allez voir le site Technologos, vous trouverez ce qu'on fait. Voilà, comme c'est lié quand même à ce qui se passe ici. Merci.
Juste une remarque, effectivement, moi je trouve que votre film est intéressant pour l'aspect poétique. Donc, je ne suis pas mathématicien ni un vieux militant écolo, je trouve qu'il y avait un aspect poétique qui était très fort. Et juste une petite remarque par rapport à ça, il m'a fait penser à un autre aussi qui a quitté le monde, tu veux dire, visible et exposé, et qui est de Montpellier aussi, c'est Joseph Delteil. José Delteil qui était installé près de Montpellier, qui aussi dans les années 30, dans un autre monde, qui est le monde de surréaliste et de la littérature, a fait ce parcours peut-être avant celui de votre personnage. Et je pense que c'est intéressant de voir sur le même endroit des parcours dans deux champs différents, mais qui ont quand même un peu la même problématique se recoupe. Et juste un autre point aussi, c'est qu'effectivement le parcours de Grothendieck, et à l'époque où ça se passe, est un peu pris aussi dans toute une réflexion. C'était ce que vous parliez de la morale, du rapport à la science, au financement, etc. Du rapport avec la démarche que certains ont pris en allant s'établir dans les usines. Je pense qu'il y a aussi des gens qui n'étaient pas dans la recherche, mais qui étaient dans le travail pur et qui ont aussi essayé de faire une démarche pas totalement comparable, mais qui est quand même un peu analogique dans le sens où ils sortaient d'un système qui refusait, ils allaient voir ce qui se passait un peu en dehors des élites, on va dire.
Trois personnes.
Par contre, excusez-moi, ce sera la dernière question. Par contre, je vous invite à aller continuer le débat au bar autour du verre qui vous est offert.
Je voudrais juste demander si vous avez des projets pour que ce film soit vu.
Je vous remercie de votre question. Donc ce film est dans une sorte d'état d'apesanteur pour le moment, puisqu'il existe sous une forme qui a l'air finalisée comme ça, mais dans mon esprit c'est encore un travail en cours, puisqu'il a été fait dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. a globalement voyagé et campé chez les gens qu'on avait interviewés. Donc c'est un travail qui est extrait comme tous les films. Tous les films sont un peu des icebergs, hein, c'est-à-dire que on voit le sommet et puis l'essentiel est sous l'eau. Donc il y a évidemment 40 heures de rush qui ne sont pas montrées dans ce film. Je travaille à une version un peu plus longue, qui fera sans doute environ une heure et demie, mais dont la date de sortie n'est pas encore programmée. Voilà.
Bon, parce que je voudrais vous dire toute mon admiration pour le film et pour l'homme qui le représente. Et je pense qu'il a un rôle à jouer auprès de jeunes consciences. Je pense aux classes prépa, je pense aux facs, je pense aux gens qui sont en devenir dans la recherche, et qui auraient intérêt à se poser ces questions qu'il pose.
Je suis complètement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle j'essaie de continuer.
Merci.
Merci à vous.
Oui, je voulais faire juste une réflexion par rapport au titre de votre film. Le personnage hors norme n'est pas présent, mais le terme de l'espace d'un homme, je trouve que c'est très approprié à ce qu'on voit, quoi. Et en fait, il est là sans être là, mais. Il est un peu cerné par toutes les approches diverses de ses collègues, des écologistes, de la nature qui est très présente dans votre film, qui est magnifique. Et puis aussi, un élément qui me paraît peut-être assez crucial pour parler de sa radicalité, c'est peut-être ce que dit... Enfin, moi, j'ai lu un peu sa biographie et sa fille qui parle quand même de son passé d'enfant, et de ce qui s'est passé dans sa propre famille, et je pense qu'il y a quelque chose là qui peut-être ne l'a jamais quitté et explique aussi pas mal de choses dans sa radicalité, peut-être, voilà. Je sais pas.
Prétendre enfermer quelqu'un comme Grothendieck dans un espace fini, comme un film qui a une durée limitée, serait une folie furieuse. Donc la notion d'espace, là comme vous l'avez raconté, est liée au fait qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui peut accueillir des images et des pensées autour de Grothendieck. C'est aussi quelque chose qui est lié plus profondément à son travail de mathématicien, d'une manière que je ne saurais pas vous expliquer dans le détail, mais voilà, on me l'a dit. Donc c'est quelqu'un qui a essayé de trouver ce qui constitue fondamentalement notre perception du monde, je crois. Quelque chose de cet ordre. Voilà, je crois qu'on doit continuer, on continue la discussion, vous êtes tous les bienvenus autour du bar, d'une boisson, etc. Merci beaucoup.